Via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes notre débat du jour et nous parlerons du Togo où l'opposition appelle à manifester jeudi, vendredi et samedi pour dénoncer le report des élections législatives prévues le 20 avril et contester également l'adoption de la nouvelle constitution. Je vous rappelle que l'opposition voit dans cette réforme une manœuvre du président Fornias Imbé pour se maintenir au pouvoir, en tout cas pour tenter d'éteindre la polémique. Le chef de l'État a donc décidé de repousser les législatives, le temps, dit-on à la présidence, de mener de larges consultations, justement, pour mieux expliquer la réforme constitutionnelle. D'ailleurs, dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi, les députés vont sillonner l'ensemble du territoire togolais pour informer les populations. Alors, que vous inspire ce bras de fer opposition-pouvoir? Quelles peuvent être les conséquences? On en parle donc ce matin. Vous continuez à nous appeler 33 9 600 693 693 70 et on vous attend également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité et pour commencer, des questions sur le dialogue national au Gabon. Bonjour Nicolas.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et merci à vous de nous appeler de Libreville. Quelles sont vos questions?
Oui, justement, au Gabon, les travaux du dialogue national ont été reportés de presque une semaine. Pourquoi le calendrier établi a-t-il été repoussé?
En tout cas, les travaux devraient finalement commencer ce lundi. Bonjour Sébastien Lemaitre.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Coup d'envoi du dialogue national, c'était donc mardi dernier avec le discours du général Brice Oligui Nguema. Pourquoi les débats ont-ils pris du retard?
Alors, le débat, le dialogue est organisé par le ministère de la Réforme des Institutions. Sa ministre s'appelle Muriel Minkouemitsa. En fait, elle avait préparé un chronogramme du dialogue avec des formations, mais elle ne voulait pas le diffuser au public avant de le montrer au bureau du dialogue. Le bureau du dialogue, qui est piloté par les religieux, c'est lui un peu qui va gérer tous ces débats, ces mois de négociations. Donc on est là dans une question un peu de protocole, on va dire de préséance hein, même. Et donc, le bureau, il ne s'est pas réuni avant la fin de la cérémonie d'ouverture, qui était le 2. Le problème, c'est que le dialogue devait commencer le 3.
Et d'ailleurs, le lendemain, tout le monde était là. Les 600 participants sont venus pour commencer les travaux.
Et voilà, tout le monde pensait qu'on allait faire une plénière, comme c'était prévu, voter des textes, négocier les derniers textes qui n'étaient pas prêts, termes de référence, faire une méthodologie de travail, etc. La ministre avait prévu ses formations, mais elle voulait donc présenter son programme au bureau, donc c'était la veille. Et finalement, elle a annoncé, non, on ne commence pas les travaux, on doit d'abord faire ses formations qui étaient prévues. Tout le monde est un peu tombé des nues.
Tout le monde est rentré chez soi, d'ailleurs.
Ouais, les formations ont même commencé un peu le jour même. Certains sont rentrés qui n'avaient pas besoin des formations, notamment ceux qui n'étaient pas dans les commissions et les sous-commissions. Et donc voilà, la ministre a annoncé, non, les travaux, ça commencera aujourd'hui. Donc, ce lundi, il faut d'abord former les commissaires, les sous-commissaires. Ensuite, il y aura assemblée plénière, donc c'était samedi. Et puis, début des travaux aujourd'hui. Alors, elle a été critiquée. Le ministère a été critiqué, ils ont parlé d'amateurisme, que c'était mal organisé, etc. Bon, ce que moi je sais, l'impression que ça donne en tout cas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison politique derrière ça, de raison cachée, même si ça fait réfléchir. Plutôt parler d'un couac, tout simplement. Voilà, c'est le début. Il y a eu un petit raté, problème de communication, question de protocole, de bienséance, comme je disais.
En tout cas, depuis le début, il y a des polémiques. Des polémiques qui ont surgi avec l'organisation de ce dialogue, manque d'experts. On dit que tout est organisé par le gouvernement, pas assez d'inclusivité.
Oui, il y a des soucis. Le problème, c'est qu'il y a 600 participants à ce dialogue, 600 participants choisis par le président Brice Clotaire-Oligui Nguema. Ça pose un peu problème. Les partis politiques, il y en a à peu près 120, ils ont un seul représentant par parti. Les partis devaient donner 4 noms au gouvernement, aux autorités. Et le gouvernement n'en a finalement choisi qu'un, Souvent d'ailleurs, il y a des présidents de partis politiques qui n'ont pas été choisis, alors que statutairement, souvent, dans les statuts des partis politiques, c'est leur président qui représente la formation à l'extérieur. Et donc au dialogue, ben non, le général a choisi quelqu'un d'autre dans la liste des quatre, mais pas forcément la personne plus en vue. Il y a aussi peut-être un manque d'experts, certains le disent, il y a des questions techniques à débattre, et puis voilà, c'est une organisation qui est faite par le gouvernement, par les autorités, on peut dire, peut-être un peu jugée partie là-dedans.
En tout cas, à partir d'aujourd'hui, véritablement, et jusqu'à la fin du mois, les 600 participants vont donc débattre de l'avenir du Gabon et proposer, in fine, vous le savez, des réformes institutionnelles, économiques et sociales, on suivra ça bien évidemment, et on vous donnera la parole. Nicolas, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci.
Merci surtout à Sébastien Nemeth du service Afrique de RFI. Bonne journée à tous les deux et on salue tous ceux qui nous écoutent à Libreville, à Port-Gentil ou ailleurs au Gabon où il est 9h16. Bonjour James.
Bonjour.
Des questions, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions concernant le prix du cacao dans votre pays.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
D'abord bonjour à toute la rédaction de RFI d'Appel sur l'actualité. Le ministre de l'Agriculture ivoirien a annoncé le nouveau prix bord champ du cacao qui passe de 1000 francs à 1500 francs. Mmh. Alors ma question est la suivante. Pourquoi les autorités ivoiriennes ont-elles fixé le prix plancher du cacao à 1500 francs le kilogramme alors que les cours mondiaux sont bien plus hauts?
Ouais, vous avez l'impression, comme certains effectivement, que les producteurs de cacao ne bénéficient pas de l'envolée des cours internationaux. Je rappelle que la tonne de cacao se négociait il y a encore 10 jours à 10 000 dollars à la bourse de New York. Alors qui de mieux placé, James, pour vous répondre que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Bonjour Kobenan Kwasi Adjoumani.
Bonjour.
Merci infiniment, monsieur le ministre, de prendre quelques instants pour éclairer James et éclairer les nombreux Ivoiriens qui nous écoutent en ce moment. 1500 francs CFA, soit 2,30 euros par kilo pour la récolte intermédiaire. Vous allez me dire que c'est une hausse de 50% pour les cultivateurs ivoiriens, mais est-ce que cela reflète vraiment la réalité des prix du cacao sur les marchés internationaux ?
Alors, ce qu'il faut dire à la personne qui a posé cette question, c'est que depuis 2012, la Côte d'Ivoire a opéré une réforme de stabilisation et de régularisation de la filière café-cacao. Celle-ci permet à l'État de garantir un prix minimum de 60% du prix CAF aux producteurs. Avec la réalisation du prix CAF moyen de 2326 francs le kilogramme, issu des ventes anticipées, le prix bord champ du cacao pour la campagne intermédiaire a été fixé à 1500 francs le kilogramme, ce qui, bien entendu, équivaut à 64% du prix CAF réalisé.
Oui. Alors c'est vrai que, monsieur le ministre, je vous interromps une seconde. C'est vrai que il suffit d'interroger le moindre cultivateur ivoirien, il vous dira jamais les prix ont été si élevés et jamais nous avons bénéficié pour une récolte intermédiaire d'un prix aussi élevé que 1500 francs CFA. Mais quand on entend que sur le marché international, qu'à la bourse de New York, la tonne se négocie à 10 000 dollars, est-ce qu'il n'y a pas un fossé trop important, un décalage trop important ?
Oui, mais c'est ce que je m'évertue à vous expliquer. Et nous avons fixé ce prix sur la base du prix CAF réalisé. Figurez-vous qu'à la campagne principale, le prix CAF était de l'ordre de 1650 francs. Sur cette base, nous avons donné 1000 francs le kilogramme. Et comme nous procédons par la vente anticipée, c'est sûr que la totalité de notre cacao a déjà été vendue sur cette base. Mais les producteurs avaient émis un cri de cœur et sont venus même jusqu'à nous demander que si par rapport à l'embellie constatée sur le marché, des efforts supplémentaires pouvaient être faits. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait en relevant le niveau du prix.
Hey, le prix
quand
plancher.
Bien même, on devrait maintenir le prix de 1000 francs le kilogramme.
Alors c'est vrai
donc,
que
c'est un sacrifice. Et puis les planteurs sont heureux et fiers. Eux-mêmes l'ont manifesté le jour de la proclamation de ce prix-là et entendent organiser une cérémonie d'hommage au président de la République pour lui témoigner leur reconnaissance. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, là, les paysans, par rapport à ce prix, sont lésés. Au contraire, c'est la première fois dans l'histoire de la commercialisation de notre cacao que au niveau de la campagne intermédiaire, le kilogramme de cacao est plus élevé que celui de la campagne principale.
J'entends bien, monsieur le ministre, mais vous le savez, vous avez des détracteurs, monsieur le ministre, Kobenan, Kouassi, Adjoumani, qui eux disent le prix aurait pu être encore plus élevé. Regardez le Cameroun, où le prix du cacao atteint les 5000 francs le kilo.
Non, il ne faut pas faire des amalgames. Allez interroger le paysan camerounais s'il perçoit effectivement les 5000 francs. Il y a des intermédiaires qui font de la surenchère et qui viennent vendre aux enchères le produit acheté à un prix moyen au producteur. Et puis, nous sommes premier pays producteur de cacao. Nous avons déjà vendu notre cacao. Le Cameroun, lui, va en spot de façon libéralisée. Bon, sans inconvénients et ses avantages.
Bien
je
sûr.
Voudrais dire à celui qui a posé la question que la prochaine fois, les prix vont être répercutés sur la base des prix actuels constatés sur le marché à l'international.
Bon, bah,
mais à l'époque, la moyenne était de l'ordre de 559 francs sur la période 2002 à 2011, au moment de la libéralisation. Mais aujourd'hui, la moyenne est de l'ordre de 850 francs CFA. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous accuser d'avoir opté pour la stabilisation, alors que c'était une façon pour le président de la République de permettre aux producteurs de disposer d'un minimum.
Un minimum garanti, effectivement. Minimum garanti, y compris lorsque les prix mondiaux chutent. Et c'est la particularité du système mis en place en Côte d'Ivoire, comme vous le disiez, depuis 2012. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'avoir accepté en direct de répondre à James, qui est à Abidjan. Je rappelle que vous êtes le ministre d'État de l'Agriculture. Bonne journée à tous les deux. 10h23 à Paris. Bonjour Mamadi.
Oui, bonjour Juan, bonjour Eva et bonjour Mathieu et Angélie, à toute l'équipe de l'Appel sur l'actualité.
C'est gentil de saluer une partie de l'équipe qui me permet de présenter l'émission ce matin. Avec vous, nous allons parler de la Somalie. Vous avez des questions sur la région semi-autonome du Puntland.
Effectivement Juan, le Puntland ne reconnaît plus le gouvernement fédéral somalien après un vote en faveur d'un changement de constitution.
Oui.
Alors Juan, que reproche le Puntland à cette révision et comment ont réagi les autorités somaliennes?
Kaoru Magassa, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, il faut d'abord rappeler que la Somalie c'est un État fédéral.
Oui, tout à fait. Il fait partie des 7 États qui constituent le pays et est une région autonome depuis 1998 qui dispose de ses propres institutions. Alors le 30 mars dernier, le Parlement fédéral, il a été rappelé dans la question, a voté à l'unanimité un projet de loi qui prévoyait la mise en place d'un régime présidentiel. Cette décision a créé la colère des autorités du Puntland parce que jusqu'à présent, le pays dispose d'un système électoral basé sur un scrutin indirect avec de grands électeurs représentant les différents clans et les sous-clans de la société somalienne.
Ouais, les autorités du Puntland qui accusent donc le président somalien d'avoir violé la constitution.
Oui, et d'avoir perdu sa légitimité. Elle réclame un processus constitutionnel mutuellement accepté et un référendum public pour faire adopter cette nouvelle constitution, ce qui maintiendrait une forme de statu quo dans le mode de désignation des dirigeants du pays.
Ouais. Concrètement, comment réagissent les autorités somaliennes?
Alors, les autorités somaliennes n'ont pas formellement réagi face aux autorités du Puntland, mais a accusé son grand voisin, l'Éthiopie, d'être à la base de ces divisions et d'interférer dans les affaires intérieures du pays. Mogadiscio a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadeur d'Éthiopie et la fermeture de deux consulats. Il faut rappeler que le 1er janvier dernier, un protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, une autre région autonome, avait été rendu public. Cet accord prévoyait la location pour 50 ans, de 20 km de côte de cette région sécessionniste de Somalie qui n'est pas reconnue par la communauté internationale.
On va suivre ça, bien évidemment. Merci à vous, Kaourou Magassa, journaliste au service Afrique de RFI. Mamadi, je vous salue. Bonne journée à Conakry. Soyez bienvenue, Christophe Boisbouvier.
Oui, bonjour, Juan.
Merci de nous rejoindre. Journaliste au service Afrique de RFI, vous étiez au Rwanda pour RFI en avril 1994. On a des questions sur le Rwanda, où depuis hier, le pays commémore les 30 ans du génocide des Tutsis. Bonjour, Marius Trésor.
Bonjour M. Juan Gomez, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
À Abidjan, nous vous écoutons avec Christophe Boisbouvier.
Ok, le président français Emmanuel Macron a admis que la France et ses alliés n'avaient pas eu la volonté d'arrêter les massacres au Rwanda. Alors M. Juan, il voudrait savoir, à quoi fait-il allusion ?
Alors, Christophe Boisbouvier, à quoi fait allusion le président Macron lorsqu'il dit que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté?
Alors, en fait, il ne l'a jamais dit lui-même. Dans la vidéo d'Emmanuel Macron que vous pouvez regarder ou écouter depuis hier, il ne dit pas cette phrase. Explication de texte. Ce jeudi 4 avril, le service de presse de l'Élysée indique à un certain nombre de médias que ce dimanche 7 avril, le président français va s'exprimer par une vidéo dans laquelle il rappellera notamment que quand la phase d'extermination totale contre les Tutsis a commencé, la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté. La phrase que notre auditeur vient de citer. Ces informations de l'Élysée sont relayées par une dépêche de l'agence France-Presse, ce même 4 avril, dans l'après-midi. Et aussitôt, en effet, c'est une avalanche de commentaires, de réactions dans toute la presse française, africaine, internationale. Pour tous les commentateurs, c'est en effet un pas supplémentaire vers la reconnaissance d'une responsabilité française dans la tragédie de 1994. Mais hier, surprise, dans le message vidéo d'Emmanuel Macron qui est diffusé, le passage que nous venons de mentionner a disparu. Le président français affirme qu'il n'a rien à changer par rapport à ce qu'il a déclaré il y a 3 ans à Kigali sur ce qu'il appelait à l'époque les responsabilités lourdes et accablantes de la France par rapport au génocide des Tutsis. « Je n'ai aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher », précise-t-il dans sa vidéo d'hier. Alors pourquoi, vous allez me dire, ne fait-il pas mention de cette phrase ? Eh bien, c'est le gros point d'interrogation. Dès le 5 avril au soir, dès vendredi soir, le service de presse de l'Élysée indique à un certain nombre de médias que le message transmis la veille est surinterprété. Donc à ce stade, il y a au moins 2 hypothèses, un cafouillage au niveau de la communication de l'Élysée ou un rétro-pédalage de la part de l'Élysée suite à des réactions au sommet de l'État français ou dans la classe politique. C'est la 2e hypothèse que retient l'ONG Survie qui déclare dans cette vidéo Emmanuel Macron reste figé sur les mots prononcés du bout des lèvres en 2021. Il poursuit son opération de communication qui vise à exonérer la France et ses représentants de l'époque de la complicité du crime de génocide des Tutsis. Mais ce n'est pas l'opinion de l'historien Vincent Duclerc, l'auteur du fameux rapport de 2021, qui affirme aujourd'hui « Pour moi, dans la vidéo d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de recul par rapport à la déclaration du jeudi 4 avril. Il faut reconnaître que le président français porte ce dossier depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Son discours de 2021 est marqué par une formule extrêmement forte à l'échelon politique. Et il y a d'autant moins de recul qu'il appelle les chercheurs à la poursuite de leurs travaux.
Effectivement. Merci infiniment, Christophe Boisbouvier, d'être venu nous éclairer effectivement sur cette erreur de communication au rétropédalage de l'Élysée. D'ailleurs, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vous invite évidemment à lire nos articles sur le site rfi.fr. Marius Trésor, très bonne journée. Vous restez tous évidemment à l'écoute de RFI. On va retrouver dans un instant l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après pour débattre du Togo et de ses polémiques après le report des législatives et ce débat autour de la réforme constitutionnelle. À tout de suite.